Ce métier est très riche et très divers et a beaucoup d'aspects différents qu'on n'envisage pas. Ce n'est pas que habiller des gens. Moi, tout de suite, je suis en train de faire un spectacle qui est en solo et qui part de mon expérience. Mais l'envie de ces interviews, c'est aussi de vous rencontrer, de vous donner cet endroit pour vous exprimer, puis pour que moi aussi, je me reconnaisse peut-être un peu et que je puisse faire des propositions assez fidèles à ce qu'on est toutes.
La Servante, solo pour une habilleuse, le podcast. Dans cet épisode, Carole nous emmène à Paris, où elle a retrouvé Laïla, habilleuse et costumière. Installée en terrasse d'un restaurant près de la Villette, elles échangent en toute simplicité. Laïla y raconte son parcours, son métier et ce qui nourrit sa passion.
J'en parlais hier à une collègue et je lui disais c'est fou parce que ce métier d'habilleuse, en fait, dans plein de domaines, il a le même nom, mais il n'engage pas les mêmes choses et il n'emmène pas aux mêmes priorités. Et quand je dis ça, que ce soit dans le cinéma, que ce soit dans le musical, que ce soit dans le cirque, que ce soit dans le théâtre, que ce soit dans l'opéra, dans la comédie musicale, du coup, c'est un même métier. C'est comme les costumières, en plus, nous, on est aussi costumières et habilleuses. Donc, ça engendre deux métiers. Je dirais que c'est techniquement habiller les gens, suivant un protocole, par exemple, si c'est rapide. Mais là, je rentre dans un aspect technique. Et puis, c'est aussi prendre du temps avec l'artiste, entre guillemets, ou pas, hein, parce qu'on peut faire de l'événementiel ou... mais ça englobe tellement de choses, en fait. C'est pas qu'habiller les gens, en fait. C'est suivre une histoire, un contexte, suivre des répétitions, connaître les timings. Il y a deux aspects, en fait, dans notre métier. Il y a l'aspect technique, qui demande un travail plutôt analytique. Et puis, je trouve qu'il y a l'aspect qui n'est pas palpable, mais qui est plus dans le relationnel, le psychologique. Voilà, je ne sais pas si ça te parle, mais toi, en plus, tu as une palette où tu fais tellement de choses que... Voilà. Pour moi, du coup, ça serait un peu d'accompagner l'artiste, de prendre soin de lui, d'être là sur le jeu au bon moment, au bon endroit, de faire ce qu'il faut, de faire en sorte que ce soit confortable, de faire en sorte que l'artiste ou la personne ne pense pas aux vêtements qu'elle est en train de porter. Et je pense souvent aux chanteurs d'opéra qui ont ce truc de se dire « Oui, non, mais si je suis trop serrée et si je tombe, c'est pas un sujet, en fait. » C'est un sujet d'être habillé confortable et habillé, bien habillé pour le sujet, mais c'est pas un sujet de devoir y penser.
Pour toi, ce n'est pas un sujet parce que c'est toi qui es garante de ça. Enfin, tu leur donnes cette possibilité-là de se...
Moi, je le prends en compte, en fait. Et là, dernièrement, j'étais au Comique. J'avais une soliste qui avait un costume qui était vraiment pas évident, en fait. Mais et elle a fait une performance de dingue sur le domino noir. Et je voulais pas qu'elle y pense, en fait. Mais voilà, elle y pensait parce que elle, dans son chant, elle avait y pensé, dans son souffle, dans ses mouvements. Voilà. Mais après, moi, ça, c'est ma façon d'être dans le travail. J'imagine qu'il y a plein de gens qui ont des priorités ailleurs, en fait. Voilà, on n'anticipe pas tous ce travail de la même manière. Et on le fait pas non plus tous pour les mêmes raisons.
Toi, c'est cet aspect-là qui t'anime et qui...
Entre autres, oui, j'imagine qu'il y en a plein d'autres. Mais tu vois, là, tu me poses cette question et c'est les premières choses qui viennent. Mais en plus, il y a un truc, c'est que selon le lieu où tu vas... selon le lieu où t'es un peu mandaté, en fait, il n'y a pas les mêmes demandes. Tu vois, moi, des fois, j'y vais, ma fleur au fusil, en me disant, bon, allez, je vais sur tel shooting ou je vais sur telle télé et je m'attends à faire ça. Tu te prépares un peu psychologiquement, quoi. Et en fait, parfois, je suis complètement à côté. Je me suis préparée pour un truc et c'est pas du tout les demandes qu'il va y avoir. Alors des fois ça va être juste de la présence parce qu'il n'y aura pas eu besoin de l'habilleuse entre autres. Par exemple je pense en télé, des fois très souvent maintenant ils arrivent déjà habillés, donc on n'a plus le travail d'aller faire, enfin c'est une autre époque, mais d'aller dans des dans des showrooms, on nous prêtait des vêtements pour les JT, ou on habillait les gens, on les entretenait. Enfin, je pense aux journalistes ou aux invités. Ça, il n'y a plus. Donc, le job, il est carrément pas, il se place pas là. C'est que t'es là. S'il y a besoin, tu les accompagnes dans leur entrée, dans leur sortie, ça coupe, ça reprend. Le travail, là, il n'est pas spécialement sur l'habillage. Pourtant, tu te prépares et tu prends tout ce qu'il faut. Tu arrives dans d'autres lieux. En fait, la priorité, je ne sais pas, ça va être sur l'agencement des lieux. En fait, on va attendre de toi, on te donne un endroit qui est brut. Je sais que tu as des lieux où ça paraît... très très simple, c'est trois chaises, une bouteille d'eau, un accès. Mais ça, on parle de trucs confortables à Paris. On parle pas des tournées quand tu, parce que c'est un autre contexte. Tu descends du bus, tu arrives dans une salle. Il faut l'aménager. Il faut déjà savoir où tu vas mettre tes artistes, lesquels artistes tu mets en priorité, à quel étage pour les accès, comment t'aménages. Et là, je parle de l'aspect technique, mais je sens bien que parfois, on peut arriver dans des lieux, on attend aussi un peu autre chose de nous, et qui dépasse aussi parfois un petit peu l'habillage, mais ça rejoint l'aspect psychologique.
Ça demande des capacités à s'adapter
aux attentes et aux besoins, qui ne sont pas en plus toujours verbales, en fait, qui ne sont pas orales. Des fois,
un côté intuitif.
Voilà. Et puis, des fois, je me dis, sans jugement de valeur, hein, parce que je peux être considérée comme une bonne habilleuse par certains et comme une chieuse par d'autres. Voilà, j'imagine qu'il y a des gens qui aiment travailler avec moi et d'autres pas. Mais je m'aperçois aussi qu'on n'a pas tous choisi ce travail pour les mêmes raisons. Moi, j'ai l'impression que ça m'a un peu tombé dessus. Et puis finalement, je me défendais d'être au service des autres parce qu'on a un parcours un peu similaire et que ma mère était intendante pour une femme assez fortunée, je t'en avais parlé. Donc je me disais, ah non, moi je ne serai jamais au service d'eux. Et finalement, à 45 ans, je me dis, finalement, je suis au service d'eux quand même. Je prends soin d'eux et je fais en sorte que la vie des artistes soit confortable. Donc il y a aussi de l'affect. Mais je m'aperçois aussi qu'il y a des gens qui choisissent ça pour d'autres raisons, des gens qui prennent ça comme un job alimentaire, des gens qui ont une histoire et qui ont choisi ce métier ou qui ont été choisis par ce métier. Et en fait, ça ne s'explique pas parce que moi, j'ai jamais eu... Alors maintenant, peut-être un peu en vieillissant, des fois, j'ai la sensation de travailler, mais les débuts, vraiment les débuts, pour moi, c'était pas du travail. J'étais payée, j'étais dans des endroits je pense que je n'aurais jamais pu visiter en dehors de ce milieu-là, avec des artistes de talent. T'es là, une répétition, et là tu dis, toi t'es là, t'entends des gens chanter qui seraient prêts, enfin t'as d'autres personnes qui seraient prêtes à payer pour les entendre en fait, ou avec des comédiens. Et je me dis, j'ai cette chance là, j'ai pas l'impression de travailler. Tu travailles parfois aussi en musique, donc je trouve que ça met de l'entrain, ça t'apporte aussi intellectuellement, parce que ça nourrit, c'est une autre façon aussi d'apprendre. Et puis, d'ailleurs, dans le milieu, on ne dit pas on travaille, on dit on joue, ça va jouer. Donc je trouve que, tu vois, c'est significatif aussi, comme l'intermittence, en fait. C'est aussi lié, c'est pas que lié à l'habillage, hein, mais il y a des artistes intermittents, la restauration intermittente, mais ce truc d'être intermittent et de rester intermittent...
t'offre une liberté et des opportunités, peut-être...
Une liberté, je ne sais pas, peut-être que c'est une fausse liberté, mais voilà, je trouve que ça correspond bien à ces métiers-là.
Je reviens sur ce que tu as dit, sur cette volonté de base de ne pas faire le même métier que ta mère, et le constat après quelques années que finalement on est dans le même endroit, c'est là-dessus qu'on avait... On peut être dans le même endroit à des moments.
C'est surtout comment on le fait. Quand on le fait, comment on le fait, pour les raisons pour lesquelles on le fait. Nous, on a eu le choix. Peut-être, inconsciemment, peut-être pas. Mais j'imagine que nos mamans, elles ont eu le choix de prendre ou pas, mais que c'était une opportunité. Et si nous, peut-être, enfin, je vais dire, moi, je sais pas pour toi, mais je m'en défendais un peu en me disant, non, moi, je serai jamais au service, non. Finalement, je m'aperçois qu'il y a quelque chose que j'aime beaucoup, que je trouve réconfortant, en fait. C'est pas un effort, en fait. Je sais que parfois, pour certaines collègues, c'est un effort, parce que ça fait pas partie du job, mais moi, c'est un truc qui me gêne pas.
Oui, qui est presque assez naturel, hein. Un héritage, un savoir-être qui ne demande pas un effort, mais qui est assez instinctif.
Peut-être une sorte d'héritage, ouais, d'avoir envie de prendre soin aussi de la personne dont tu t'occupes. Même si on est d'accord que c'est on ne sauve pas des vies, enfin, tu vois, c'est très superficiel. C'est dans un registre qui peut être plutôt gay. Enfin, je veux dire, c'est pas de l'ordre du loisir, mais c'est pas... Je suis en train de me perdre dans ce que je dis. C'est pas quelque chose c'est pas un truc à faire où t'es obligé de le faire dans quelque chose de lourd. On travaille pas dans un hôpital, on travaille pas sur... Tu vois, c'est relativement... Même si parfois les sujets peuvent être lourds, et tu vois, je pense à certains films ou certains opéras ou même les comédies, tu t'accompagnes une histoire, en fait. Mais t'es un peu dedans, un peu dehors, en fait. Et tu peux envelopper les gens avec douceur, en fait. T'es pas dans l'obligation, comme parfois, j'imagine que nos mamans, elles ont pris soin parce que c'était leur job et d'une façon beaucoup plus dure, en fait.
Mais est-ce que parfois... Malgré cet écrin qui est autre, peut-être, que les conditions dans lesquelles nos mères ont travaillé, tu ressens que peut-être on accepte plus de choses par habitude qu'on ne devrait. Parfois, il y a des moments durs, en termes d'amplitude horaire, en termes de traitement, de considération, même si c'est moindre, est-ce qu'on accepte aussi beaucoup de choses ?
Ouais, écoute, tu sais, honnêtement, ça c'est un peu le sujet récurrent de qu'est-ce qu'on accepte, pourquoi on l'accepte. On s'en parle des fois avec les copines ou avec les collègues. Elle est où la limite de ce qu'on accepte ? Pourquoi les conditions ? Ce qui est tolérable ou pas ? Ce qui est dit ou pas ? Et à côté, c'est terrible ce que je vais dire, mais en voyant des amis qui n'ont rien à voir avec le milieu du spectacle, je m'aperçois que c'est un peu partout pareil, en fait, et qu'on a un peu les mêmes discours où on a parfois l'impression... de pas être considéré ou de... Moi, les retours que j'en ai, c'est un peu... On a l'impression que l'habillage, c'est juste repasser des vêtements, les mettre dans une loge, les donner à l'artiste, les enlever, et puis... Mais il y a tellement de choses, en fait, qu'englobe ce métier. Donc, à côté, c'est pas non plus... je veux dire, faut pas faire polytechnique. C'est sûr, mais ça ne va pas sur ces qualités-là. Il y a de très bons très bonnes techniciennes en habillage, mais qui n'ont pas d'affect. Tu as des nanas qui ont beaucoup d'affect, mais qui ne sont pas de très bonnes techniciennes. Et après, je vais te dire, autant des fois, je râlais un peu, tu vois, avec un peu un jugement de... tu as l'impression que tu fais mieux ou que tu fais moins bien. Autant, en fait, il y a des couleurs pour tout le monde, en fait. On correspond à... Tu vois ce que je veux dire ? C'est que... Moi, peut-être que ma rigueur, elle va saouler une artiste parce qu'elle va être hyper, tu vois, hyper laxe et qu'elle va s'habiller au dernier moment. Et peut-être que je vais correspondre à une autre artiste qui va avoir besoin, l'année dernière, une chanteuse canadienne qu'il fallait, enfin, pas rassurer, mais hyper dans le contrôle. Elle a besoin d'aller sur scène en sachant où elle va et ce qu'elle va mettre. Donc, on a fait tous ces changements dans sa loge. Donc on a répété tous ces changements dans sa toute petite loge. Moi, je trouve ça super, ça ne me gêne pas. Je sais que j'ai des collègues qui vont me dire « Mais attends, on le refait deux fois. » Moi, je trouve ça super, je sais où je vais. Je sais ce que je vais mettre, je sais ce qu'elle veut, comment elle veut le positionner. Et la magie aussi, c'est que les gens puissent penser que, en fait, c'est facile et qu'il ne s'est rien passé, en fait. qu'elle a juste été habillée et que le changement s'est fait facilement. C'est ça aussi le côté. Mais du coup, finalement, je me dis, ben, comme dans tout et comme dans plein de métiers, je crois que les choses, elles s'orchestrent bien, qu'on correspond ou pas aux gens qu'on habille, et vice-versa. Et qu'il n'y a pas de règle absolue, quoi. J'ai l'impression que plus on avance, plus j'avais de certitude, moins c'était bon. Et moins j'en ai, et j'ai l'impression que le fait de moins en avoir, d'être moins sur des lignes, que ça paraît plus juste. Ouais. Alors, pourquoi je suis devenue habilleuse ? Ben, honnêtement, j'avais pas du tout prévu de devenir habilleuse. En fait, à la fin de la troisième, la question, c'était qu'est-ce qu'on fait ? Et ça, pour moi, ça a été une source d'angoisse et de stress. Je me disais, c'est pas possible. Comment on peut savoir ce qu'on veut faire, en fait ? T'es à l'école et on te demande qu'est-ce que tu veux faire ? Et j'avais une vague idée, en fait, de bien aimer les fringues, la mode. Voilà, je savais que s'il y avait un truc à faire, j'aimerais faire des vêtements. Parce que je dessinais un petit peu à côté. Mais je peux pas dire qu'il y avait des choses que j'aimais pas. Tu vois, c'était le moins stressant et le moins angoissant pour moi, c'était de m'orienter plutôt, tu vois, dans la mode, l'habillement. C'était un peu ça. Dès que c'était un peu, qu'est-ce que tu fais, plutôt, tu vois, littérature, quelle branche tu prends, mais c'était source d'angoisse. Et j'ai eu la chance, alors, je me souviens plus par quel biais, de rencontrer Monique Vernier, qui était, si je ne me trompe pas, une des directrices du lycée Jules Verne à Sartrouville, qui avait ouvert une formation de FCIL. L'option costumière habilleuse, en fait, elle n'était même pas reconnue par l'État. Donc, il y a eu d'abord l'année d'FCIL à Sartrouville. Hein. Après, je ne sais pas, dans les autres écoles, où c'était une année un peu de flottement, où des nanas, en fait, se formaient à faire du costume de théâtre. Et moi, je rencontre cette femme qui me dit « Mais ah, mais tu t'aimerais pas faire du théâtre ?» En plus, cette grande femme rousse, qui n'est pas dans les cases, lookée. Et je me dis « Waouh, elle a l'air hyper libre, ça a l'air bien. » Elle me dit « Oui, mais il faut que tu saches coudre, en fait. Moi, je ne peux pas te prendre avec moi si tu ne sais pas coudre. » Donc, du coup, elle me dit « Fais au moins un BEP de couture. » J'étais dégoûtée, quoi. Je me disais « Putain, après la troisième, faire 2 ans de couture. » Et puis, finalement, il n'y avait pas d'autre chemin. C'est que soit les nanas, elles savaient déjà coudre. Donc, j'ai fait mon BEP. Et après, il y a à l'époque, ça s'appelait le BMAS, Brevet des métiers d'art et du spectacle. Donc, j'ai pu prendre cet embranchement-là. Et on avait donc Monique Vernier, qui était vraiment déjà, je trouve, en dehors des cases. Ça veut dire qu'en dehors des heures de la scolarité, donc, je sais pas, ça devait être 8h, 17h ou 18h, elle proposait à celles qui voulaient d'aller l'aider dans des théâtres. Donc, elle nous proposait, après les cours, en fait, d'aller à la MTD, la Maison du Théâtre et de la Danse à Épinay, et nous proposait, en fait, de l'accompagner. Donc, elle suivait la répétition, elle faisait des essayages. Donc, moi, pendant ma scolarité, je commençais à baigner, en fait, déjà concrètement dans le milieu. Et du coup, à la fin du DMAS, ben, j'avais déjà un réseau professionnel, donc j'ai travaillé très vite, en fait. Et voilà comment j'ai atterri au costume. Mais ça a été vraiment un coup de cœur, c'était une évidence, quoi. De voir le costume sur scène, habité par l'artiste, les différentes époques, enfin... Voilà, même s'il y a des aspects pendant la formation où tu fais un peu de dessin technique qui est nécessaire aussi, tu fais de l'automatisme, tu apprends à monter, démonter une machine. Enfin, voilà, ça, c'est pas toujours très fun, mais tu as toute la partie histoire de l'art. Et puis, là, c'est plus un taf de costumière, mais les découpes, les diagrammes d'agencement, comment tu montes les choses. Enfin, moi, ça, je trouvais ça. Pour moi, ça avait un côté. Magique, en fait. Donc, voilà, j'ai atterri dans le milieu comme ça.
quand tu disais on a la chance d'être dans des lieux incroyables, de côtoyer des gens d'un talent fou, de rencontrer mais tout ça dans un cadre très, je sais pas si j'extrapole, mais parfois dans un cadre très humble, c'est-à-dire il y a un rapport très simple et très humain, on a un rapport au corps, aux sensibilités, à l'intimité des gens, et qui est quand même extrêmement précieux. Cet endroit qui est assez incroyable, moi, que j'aime beaucoup, et qui, pour moi en tout cas, me fait continuer. Malgré les à côté, malgré les difficultés, les amplitudes horaires, des fois la fatigue, tout ce qu'on veut, ces moments-là magiques de complicité ou de solution ou un changement rapide, extrêmement rapide, réussi, on n'a même pas besoin d'avoir un applaudissement autour, on s'en fout en fait, c'est juste de vivre cet endroit-là, de sentir à sa place, et c'est même pas indispensable, c'est juste fait partie de la petite machine. Ce que tu disais, s'il n'y avait pas ça, il y a quelque chose qui manquerait, quoi.
Ouais, mais pour nous, parce que vraiment, je pensais que c'était le cas pour plein de personnes. Et en fait, c'est pas toujours le cas, et c'est OK, en fait. Je veux dire, chacun, on est tous à une place à un moment donné, pour des raisons différentes. Et c'est vrai que moi, j'avais l'impression que ces métiers, c'était forcément que des métiers passion. Et ça l'est en grande majorité, mais je me suis aussi rendu compte que ça n'était pas pour tout le monde. Et c'est pas grave, et c'est comme ça. Et à côté, je sais que, tu vois, là on en parle, tu nous donnes l'occasion d'en parler, et je trouve ça super, mais je parle pas tant de mon métier, parce que si j'en parlais réellement dans la façon dont ça m'anime, les gens me prendraient pour une dingue, en se disant, mais alors, l'autre, elle est costumière habilleuse, enfin plus habilleuse maintenant, et elle s'invente une histoire, mais c'est vrai que je m'invente des histoires. Ça veut dire qu'on est dans les répétitions, enfin, on commence les répétitions... Tu prends un peu tes repères, tu rencontres les gens, les observants, tu regardes un peu. Déjà en observant, tu vois ce qui va se passer aussi un peu avec l'artiste. Comment elle bouge, son caractère, comment tu vas travailler avec elle. Tout ça, c'est des choses dont on ne parle pas. Mais pour moi, ça fait déjà partie du job. Et c'est à partir de ce moment-là, et je dis l'artiste, mais je pense aux danseurs, à tellement de personnes. C'est pas forcément qu'un comédien ou qu'un chanteur. Et là, moi, j'observe les scènes, j'essaye de comprendre ce qui va se passer, le temps qu'on a, donc l'aspect technique pour les changements, tout ça. Mais tu commences à tisser, tu vois si tu commences à tisser du lien, si tu peux tisser du lien, si la personne elle a besoin d'espace ou pas, si elle a besoin d'être rassurée. Enfin, déjà, tu prends la température. Et puis après, il y a l'intimité qui se fait dans la loge. Parce que c'est vrai que je me dis des fois, ouais, tu vas dans l'intimité des gens, tu les changes, parfois ils sont nus. Donc voilà, je respecte beaucoup ça. Parfois on voit des comédiens, on a l'impression qu'ils sont très exubérants, mais c'est des gens extrêmement pudiques. Ça tisse aussi du lien. Et puis après, il y a le lien ou pas que tu fais aussi avec l'artiste. Mais là, on parle de l'artiste, mais même pas que. Je trouve que dans les équipes techniques aussi, en fait, tu vois, c'est des aventures humaines. Alors, je le ressentais plus avant, quand je faisais beaucoup de tournées, mais pour moi, c'est souvent un projet, c'est une aventure humaine. Donc, tu découvres des gens, tu t'aperçois que tu peux être complètement différent d'un groupe, ou des fois, tu vois que tu colles complètement avec le mood des équipes. Enfin, selon leur provenance, si c'est cinéma, si c'est cirque, télé, enfin peu importe. Et ça aussi, ça fait partie de l'aventure, en fait. Pour moi, nos tafs, ils sont... Il y a vachement d'affect, en fait. On fonctionne quand même à l'affect. La mise en scène, enfin, je veux dire, tout... je trouve que tout est lié à l'affect. Les relations qu'on a entre nous... je sais pas, je me dis des fois on est sur des projets qui sont hyper, hyper difficiles. Bon, là de toute façon tu le vois vite, hein. Soit ça prend parce que la difficulté elle soude le groupe, soit elle le dissout, mais ça aussi en fait pendant un court moment tu peux créer des affinités avec des gens ou des liens avec des gens que tu n'as jamais créé avec des gens que tu connais depuis longtemps. Parce que dans la difficulté, dans le lieu, sur un tournage, le froid, en fait, t'es obligé d'être toi-même. En fait, c'est fou parce qu'on a l'impression d'avoir le masque du boulot. Mais à côté, il y a des endroits où tu ne peux pas avoir le masque du boulot. Tu ne peux pas tricher. Et dans ce milieu-là, malgré ce côté, un peu magique du truc, quoi, le côté pas lisse, mais magique, on ne voit pas tout le travail qu'il y a eu derrière, il y a quand même ce côté-là. Il y a vraiment ce truc-là des liens que ça amène. Et de toute façon, pour que ça se passe bien, et ça se passe, on sait que ça se passe bien quand même, show must go on, quoi qu'il arrive, ça se fait. Mais on voit aussi que quand les gens s'entendent bien, il y a vraiment le petit truc en plus. Il y a un petit truc au-delà dans l'énergie du groupe, mais aussi sur le plateau, je trouve que ça se sent. Et souvent, tu vois un truc et tu te dis waouh, ah ouais, non, mais ils ont bien dû se marrer, quoi. Mais comme on peut revoir un film avec, et tu te dis non, mais ça se sent.
Ouais, ça se sent. Et je trouve que dans notre place, on a la chance d'être à la meilleure place pour observer cette chose-là. On voit tout.
C'est vrai. On n'est pas forcément vu, mais ça, j'aime bien. Ça, c'est ça. On n'est pas forcément vu, mais pour qui a envie de regarder et qui sait regarder, tu peux avoir une vue d'ensemble incroyable, en fait. Alors, en anecdote pas très cool, j'ai un chanteur qui est censé rentrer sur scène. Je vais le voir. Enfin, je frappe à sa porte. Je lui dis, on va commencer à s'habiller. Il est au téléphone. Il me dit, non, pas tout de suite. Ok, j'attends. Je vois que le temps commence à passer un peu. Je sais que la régie annonce le timing. Et là, je frappe à nouveau. Et il a l'air agacé, il me dit non, pas tout de suite. Et moi, je vois le temps passer et je sais qu'il ne sera pas habillé à temps, en fait. Et en plus, manque de bol, j'ai quand même un costume qui a... il est tellement plein de boutons. Je crois qu'il y avait 132 boutons. Donc devant, je ne sais pas, je devais avoir une vingtaine de boutons à fermer. Donc ça n'allait pas mettre juste 3 minutes, quoi. Et à un moment donné, j'ai ma responsable qui vient me voir et qui me dit « Leïla, on t'attend, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il ne descend pas ?» Et en fait, je lui dis « Mais j'ai pas pu il n'est pas prêt, il est au téléphone, je ne sais pas quoi faire. » En plus, j'étais plutôt jeune à l'époque. Et du coup, elle frappe, il ouvre et en fait, il lui dit que je ne me suis pas présentée. Et là, moi, je suis, je regarde ma responsable qui me connaissait et je lui dis, Donc, je l'habille, il rentre sur scène et moi, là, je suis blessée, en fait. Je suis hyper blessée. Je suis dans ma blessure d'injustice où je me dis, waouh, en fait, il n'a pas assumé, il est dans son truc et il est plus âgé que moi. Et du coup, j'ai de la chance parce que l'équipe avec qui je travaillais me connaissait. Je suis plutôt connue pour être plus carrée que relax ou détente, à prendre un peu les trucs à la légère. Donc elle m'a dit non, t'inquiète pas. Et puis bon, voilà, il n'y a pas eu débat, il n'y a pas eu de... Et après, une super anecdote, ce serait les Folies Bergères avec Jean Marais. En fait, j'ai eu la chance de pouvoir être sur l'Arlésienne. Et à l'époque, il y avait les théâtreux Gisèle Touré, Francis Lemaire, Jean Marais. Et avant le jeu, il y avait des petites réunions. On était tous assis. En plus, je crois que je devais avoir 19 ou 20 ans. Et ils nous racontaient des histoires de Cocteau, mais des trucs, tu vois, un peu en dehors du cadre. Et je me disais, mais waouh, je suis là, je l'entends... J'entends nous raconter des histoires, ce monstre, tu vois, pour moi. Et puis de le regarder jouer, quoi, tu vois, ce vieil homme qui était très à l'aise, qui pouvait se moucher sur le plateau, mettre son mouchoir, enfin.
Est-ce que tu as des rêves artistiques ou est-ce que tu fais des choses plus artistiques à côté, en lien, pas en lien?
Qu'est-ce que je fais? Je me suis essayée un peu au make-up, mais finalement, c'était pas. C'était pas ça. Je fais un peu de tapisserie. Non, sinon, je crois que je suis vraiment... Je me suis pas découverte où je suis vraiment la technicienne. Tu vois, des fois, je me dis, hein, je suis un peu un ovni là-dedans. J'ai plein de collègues qui font plein de trucs à côté, du chant, de la danse, de la comédie, qui dessinent, qui sont très créatives. Et je sais pas, moi, je me suis pas encore trouvée là. J'aurais bien aimé dire je fais des claquettes, je joue du piano, de la batterie, mais non,